VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 11 novembre 2015. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
En République centrafricaine, mort hier d'un casque bleu de la MINUSCA.
Thomas Boni Yayi dit vouloir respecter la constitution du Bénin en ne briguant pas un troisième mandat.
En RDC, arrestation hier à Lubumbashi de 8 militants d'un parti congolais récemment passé à l'opposition.
Malte, l'Union européenne va demander à l'Afrique d'accepter davantage de retours de ses migrants irréguliers, indésirables en Europe, contre la promesse d'une aide au développement renforcée lors d'un sommet qui s'ouvre ce mercredi.
Et ici aux États-Unis, quatrième débat hier soir à Milwaukee des candidats à l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de 2016.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Un casque bleu a péri mardi en Centrafrique lors d'affrontements entre factions rivales à quelques semaines des élections qui doivent remettre le pays sur les rails, a rapporté le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric. La mort de ce soldat a eu lieu au moment où l'ONU s'apprête à envoyer des centaines de casques bleus supplémentaires dans le pays. Le soldat a été retrouvé mort à près de 400 km au nord de Bangui, dans la ville de Batangafo, où avaient éclaté des violences entre des éléments armés assimilés aux milices anti-Balaka, d'une part, et d'autres assimilées à l'ex-Seleka. Un responsable de l'ONU a rapporté que le casque bleu était camerounais.
Le président du Bénin, Thomas Boni Yayi, l'un des rares chefs d'État africains à s'être engagé à passer la main au terme de deux mandats, a choisi de respecter sa constitution en ne se présentant pas à l'élection présidentielle de 2016. Il a expliqué hier dans un entretien à l'AFP en marge d'une visite officielle à Paris. Jean-Roger Bion.
Chacun sa conviction, la mienne c'est de respecter la constitution de mon pays qui prévoit deux mandats non renouvelables, a déclaré le président Boni Yayi. Je n'ai pas de leçon à donner, je ne veux critiquer personne, a immédiatement ajouté M. Boni Yayi, âgé de 63 ans, élu pour la première fois en avril 2006 et réélu 5 ans plus tard. De nombreux chefs d'État africains tels le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Zimbabwéen Robert Mugabe ou l'Ougandais Yoweri Museveni sont au pouvoir depuis plusieurs décennies et ne donnent aucun signe de départ. Au Burundi, la candidature en avril de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, considéré par l'opposition comme contraire à la Constitution, a plongé le pays dans une grave crise. Au Congo, le président Sassou Nguesso, âgé de 71 ans, a fait adopter en octobre une nouvelle constitution, lui permettant de briguer un mandat supplémentaire via un référendum dénoncé comme une tricherie par ses opposants. Chaque pays a ses spécificités, a estimé le président Boni Yayi. Il y a des chefs d'État qui travaillent, qui ont lancé de grands projets, qui sont animés par le peuple et qui sont passés par des méthodes démocratiques pour réviser leur constitution.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est dit très préoccupé mardi devant la situation au Burundi et il a salué la nomination d'un conseiller spécial de l'ONU pour ce pays, le Britannique Jamal Ben Omar, afin de tenter d'apaiser les passions. Nous sommes très préoccupés par ce qu'on sait, ce que donnent dans cette région les discours de haine, a-t-il dit lors d'une conférence de presse en marge du Forum international de Dakar sur la sécurité en Afrique. La France a présenté lundi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution exigeant la fin des violences au Burundi qui réveille le spectre du génocide rwandais.
Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, 8 militants d'un parti congolais récemment passé à l'opposition ont été arrêtés hier à Lubumbashi. Le général Philémon Yave, chef de la région militaire basée à Lubumbashi, a confirmé des arrestations au siège de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, sans préciser leur nombre. Eddie Isango.
Selon des témoins, 8 personnes ont été arrêtées au siège du parti où les soldats ont même déchiré la grande affiche à l'effigie de Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'UNAFEC et de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'armée affirme que ces arrestations résultent de la traque des membres du service d'ordre de l'UNAFEC recherchés pour avoir incendié la maison d'un dissident, ce que dénoncent ces partis. L'UNAFEC appartient au G7, groupe des sept partis dont les dirigeants ont été exclus de la majorité en septembre après avoir mis en garde les présidents Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 contre la tentation de s'accrocher à son poste. À Kinshasa, l'opposant Joseph Olinga Nkoy, président de FONUS, a déclaré que trois membres de son mouvement avaient également été arrêtés le 5 novembre.
Au Nigeria, la police a dispersé hier de manière musclée plusieurs centaines de Biafrais qui manifestaient pour la libération d'un militant de la cause indépendantiste à Port Harcourt. Anastasie Toudiech.
À Port Harcourt, capitale de l'État de Rivers, la police a confirmé la manifestation mais a nié les tirs de sommation et l'utilisation de grenades lacrymogènes. La police fédérale avait annoncé un accroissement des mesures de sécurité, avertissant que personne ne serait autorisé à troubler la paix de la nation. L'organisation du peuple indigène du Biafra, l'IPOB, organise depuis des semaines une série de manifestations pour réclamer la libération de Nnamdi Kanu, directeur de la station pirate Radio Biafra. Il a été arrêté en octobre. Avant cela, sa radio avait été fermée après avoir été accusé de diffuser des messages de haine. La multiplication des manifestations en faveur de sa libération ravive le souvenir de la sécession du Biafra et de la guerre qui avait fait plus d'un million de morts entre 1967 et 1970. L'ethnie Igbo, majoritaire dans le sud-est du Nigeria, se plaint d'être punie depuis la fin de ce conflit.
Débordée par l'afflux de réfugiés, l'Union européenne va demander à l'Afrique d'accepter davantage de retours de ces migrants irréguliers indésirables en Europe contre la promesse d'une aide au développement renforcée lors d'un sommet qui s'ouvre ce mercredi à Malte. Les dirigeants des 28 États membres de l'Union européenne et 35 pays africains représentés veulent s'attaquer ensemble à La Valette aux causes profondes qui poussent encore tant d'Africains à partir de chez eux. Ce sommet est un sommet pour agir, a déclaré mardi le président du Conseil européen, Donald Tusk, devant le Parlement de la petite île méditerranéenne. Le sommet débutera en fin d'après-midi et se prolongera jeudi.
L'Afrique compte sur le sommet de La Valette et la conférence sur le climat pour financer son électrification, ont souligné hier à Paris cinq chefs d'État africains. Le point avec Arzuma Compaoré.
Le président ghanéen John Dramani Mahama a déclaré que les problématiques de la migration et du changement climatique sont étroitement liées. En compagnie de Thomas Yayi Boni du Bénin, Alpha Condé de la Guinée, Ali Bongo du Gabon et du premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, ils ont été reçus hier par François Hollande à l'Élysée. Une réunion pour préparer la COP21 qui s'ouvre fin novembre à Paris, ainsi que le sommet de La Valette qui réunira mercredi et jeudi les dirigeants de l'Union européenne et d'une trentaine de pays africains sur la question des migrants. La désertification, l'érosion côtière, le manque de pluie provoqué par le réchauffement de la planète aggrave la pauvreté du continent subsaharien, a expliqué de son côté le président Yayi Boni. L'Afrique a aussi besoin d'électricité, a insisté le premier ministre éthiopien. 75% des Africains, soit 650 millions de personnes, n'y ont pas accès. Le coût d'une électrification complète du continent est évalué à 5 milliards de dollars par an pendant 10 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les huit principaux candidats républicains à l'investiture de leur parti pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis ont eu leur quatrième débat hier soir à Milwaukee, dans le Wisconsin, un débat axé sur l'économie. Le milliardaire Donald Trump, pratiquement écho avec le neurochirurgien Ben Carson dans les sondages, a estimé que les impôts et les salaires étaient trop élevés, ce qui rend difficile pour les États-Unis la concurrence dans le monde. Pour M. Carson, toute augmentation du salaire minimum garantie s'accompagne d'une augmentation du chômage, particulièrement dans les communautés noires. Marco Rubio, sénateur de Floride, a préconisé des réformes des systèmes réglementaires et fiscaux, ainsi qu'un plus grand accent sur l'éducation pour augmenter les salaires de millions de personnes. Nous retrouvons Jean-Roger Bion.
Concernant l'immigration, M. Trump a dit que les États-Unis n'ont pas d'autre choix que d'expulser les sans-papiers. On a besoin de frontières, nous aurons un mur, ça marchera. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à Israël. Le mur, ça marche, croyez-moi, a-t-il dit. Le sénateur Ted Cruz du Texas a souligné le droit de chaque nation souveraine de sécuriser ses frontières. Mais les autres candidats, dont Jeb Bush, Marco Rubio et le gouverneur John Kasich de l'Ohio, ont exprimé leur désaccord. Ce dernier a fait remarquer que tout plan visant à expulser des États-Unis, 11 millions de sans-papiers est simplement idiot. La politique étrangère n'a pas été cependant absente du débat. Donald Trump a exprimé son soutien aux actions militaires de la Russie en Syrie, tout en se posant des questions sur l'aide envoyée aux rebelles modérés en Syrie. Les États-Unis, a-t-il dit, ne peuvent pas jouer le rôle de gendarmes du monde. Jeb Bush a rétorqué qu'il n'est pas question de gendarmes du monde, demandant à l'instar de M. Kasich et la femme d'affaires Carly Fiorina la création d'une zone d'exclusion aérienne en Syrie. M. Bush a dit que l'Amérique doit être un leader.
Et maintenant, la Minute Éco avec John Lennon.
Le FMI presse les pays pétroliers à restructurer leurs économies. C'est une exhortation qui leur a été faite à Doha par Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international. La situation actuelle est un rappel pressant à la nécessité de se restructurer, a déclaré Mme Lagarde à l'adresse des pays dont l'économie dépend largement des revenus de leurs exportations d'hydrocarbures. Elle a souligné que les États producteurs devront trouver de nouvelles sources de revenus et de taxes tout en appliquant un strict contrôle sur les dépenses publiques. Les autorités américaines ont procédé mardi à de premières mises en examen dans l'une des plus importantes escroqueries informatiques de l'histoire, avec l'infiltration de plus de 83 millions de comptes des clients de la banque américaine JP Morgan Chase. Britt Barara, le procureur fédéral de Manhattan, a inculpé 4 personnes qu'il accuse d'avoir ciblé la banque et 12 autres sociétés financières américaines, dont le groupe des médias Dow Jones, maison mère du Wall Street Journal et de l'agence d'information du même nom. C'est la première fois que des personnes sont officiellement identifiées par les États-Unis dans ce dossier qui a ravivé ici les craintes sur la fragilité des entreprises face aux cybercriminels. Snapchat passe la barre des 6 milliards de vidéos par jour. L'application américaine, célèbre pour ses messages qui disparaissent après quelques secondes, a indiqué lundi que ses utilisateurs regardaient désormais chaque jour plus de 6 milliards de vidéos par son intermédiaire. Snapchat n'est pas coté en bourse, mais a été évalué à 15 milliards de dollars par les investisseurs privés ayant participé au printemps à son dernier tour de table. À titre de comparaison, Facebook a revendiqué la semaine dernière plus de 8 milliards de vidéos vues par jour.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Dopage, la Russie dans l'œil du cyclone.
La Russie a rejeté les accusations de dopage et de corruption qui l'accablent et a promis des réponses rapides pour la Russie de Vladimir Poutine qui a organisé les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi en 2014 et qui accueillera le Mondial de football en 2018. Le temps presse. Elle a jusqu'à la fin de la semaine pour répondre aux révélations du rapport explosif publié par l'Agence mondiale antidopage qui l'accuse de dopage organisé de ses athlètes jusqu'au sommet de l'État. Faute de quoi, la Russie risque une suspension de toute compétition en athlétisme, dont les JO à Rio. La Russie n'est pas le seul pays, ni l'athlétisme, le seul sport à faire face au problème du dopage organisé, écrit la commission d'enquête indépendante. D'autres révélations sont à attendre, affaire à suivre.
Football, l'attaquant sénégalais de West Ham, Diafra Sakho, a lui déclaré forfait pour les matchs des éliminatoires du Mondial 2018 face à Madagascar.
De même qu'Alfred Ndiaye et Boukari Dramé, convoqués pour pallier d'éventuels forfaits. Diafra Sakho a une déchirure au niveau de son ischio-jambier. Alfred Ndiaye a une déchirure à la cuisse. Quant à Boukari Dramé, il a une contraction, a expliqué à l'agence de presse sénégalaise Pape Fédior, le médecin des Lions de la Teranga. Les Sénégalais qui ont quitté hier Paris pour Tananarive, où ils affrontent vendredi Madagascar en match aller des éliminatoires du Mondial 2018.
Autre sélection, la Côte d'Ivoire.
Les attaquants Wilfried Bony, Salomon Kalou et Thomas Touré, blessés, sont forfaits avec les éléphants pour la double confrontation contre le Liberia en éliminatoire du Mondial 2018. Aussi, le sélectionneur Michel Dussuyer a-t-il dû appeler en renfort Roger Assalé, sacré dimanche en Ligue des champions d'Afrique avec le tout-puissant Mazembe. Le défenseur Arthur Boka effectue également son retour en sélection. Au contraire, Yaya Touré est absent. Son avenir en sélection est en suspens. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de la nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain.
Utah 114, Cleveland 118, Oklahoma City 125, Washington 101, LA Lakers 88, Miami 101, New York Knicks 111, Toronto 109, Boston 99, Milwaukee 83, et enfin Charlotte 104, Minnesota 95. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le recensement électoral biométrique, lancé le 26 octobre en prévision des élections de 2015, rencontre d'énormes difficultés sur le terrain. Il était question initialement d'ouvrir plus de 8000 centres de recensement sur le territoire national et de boucler l'opération en 45 jours, un délai qui sera maintenant difficile de respecter de l'avis des observateurs. Timothée de Nangmaï a joint à Moïsala, dans le sud du Tchad, Ali Gabriel Golor, secrétaire général national de la Convention pour la démocratie et le fédéralisme, un parti d'opposition.
Les premières difficultés se situent au niveau des agents qui s'occupent de l'opération recensement. Ces agents-là, ce sont les opérateurs, les accompagnateurs et les superviseurs. Leur formation a été trop rapide, de telle sorte que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à bien maîtriser l'outil informatique. Ça, c'est la première difficulté. La seconde, c'est que les kits d'enrôlement ne sont pas livrés en nombre suffisant. Je prends deux exemples. Dans la localité de Bedaya, enfin la sous-préfecture de Bedaya, il a été prévu de livrer 19 kits pour le recensement. Mais au moment où je parle, Bedaya ne possède que 3 kits. À Bessada, il a été prévu de livrer 14. Au moment où je parle, Bedaya, toute la sous-préfecture n'a que 3 kits. Donc cela va avoir des répercussions certaines sur le travail.
Comment les électeurs réagissent-ils par rapport à ce recensement?
Il y a eu de la sensibilisation et j'ai constaté que la plupart des électeurs veulent se faire recenser. Tel que nous constatons, on risque d'arriver à la fin du délai de 45 jours sans qu'une bonne partie ne soit recensée. Donc il y a un vrai problème de prolongation du délai qui se pose en ce moment. Mais il y a d'autres difficultés, hein, mais ça c'est les difficultés matérielles des agents qui sont sur le terrain même. Il y a des problèmes de véhicules qui sont en nombre insuffisant. Il y a le problème de carburant qui n'est pas livré en quantité suffisante. Il y a le problème des indemnités des agents qui n'est pas résolu. Donc il y a des tas de problèmes qui bloquent la bonne marche de l'opération recensement en ce moment.
Qu'est-ce qui peut être fait pour rattraper les choses?
Nous qui sommes du CNDP, nous avons fait le constat au Moyen-Chari et dans le Mandoul où nous nous trouvons en ce moment. Nous avons tenu une réunion à Koumra avec les délégués de la CENI dépêchés de N'Djamena. Nous avons attiré leur attention sur les différents problèmes et nous avons demandé avec insistance qu'ils saisissent la CENI mère N'Djamena pour pouvoir résoudre ces problèmes-là.
Ali Gabriel Golor, secrétaire général national de la Convention pour la démocratie et le fédéralisme, un parti d'opposition tchadien.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
En République démocratique du Congo, notre correspondant à Bukavu, dans le sud Kivu, signale la présence d'enfants mineurs dans les chantiers de construction, malgré la loi interdisant le travail des enfants. Reportage d'Ernest Mouhero.
Ils sont des centaines, les enfants âgés de moins de 18 ans qui sont utilisés à Bukavu dans des travaux de construction des maisons. Et pour la plupart, La situation d'extrême pauvreté de leur famille les oblige à faire ces travaux lourds. Madame Julienne Mouchagaloussa, secrétaire générale de l'Association des femmes juristes congolaises Antennes du Sud Kivu, explique.
La plupart, ce sont des enfants qui sont séparés de leurs parents, des enfants orphelins. Quand la famille n'est pas à mesure de payer les études, cette catégorie d'enfants qui vont maintenant chercher de quoi payer les études et même de quoi faire vivre leur famille. Et quand il va tomber malade, il n'y a personne qui va les soigner.
Sur les terrains, la réalité est encore plus triste. Ici, en Gouba, par exemple, dans la commune d'Ibanda, je me retrouve sur un vaste chantier de construction où, comme des fourmis en plein ouvrage, une soixantaine de gamins transportent de grosses quantités de béton, mélangent le ciment et le sable, suent à grosses gouttes, l'air inconscient du poids des efforts qu'ils déploient pour moins de 3 dollars le jour.
Je fais le travail des bétonniers. Je transporte du sable, trouver des quoi acheter des objets classiques.
Je fais aussi ce travail. Nous construisons beaucoup de maisons ici à Bukavu. J'ai commencé ce travail à l'âge de 10 ans. Cela me permet de me procurer les habits et les chaussures. J'ai l'espoir de devenir un jour un maître maçon.
Moi, je n'ai jamais trouvé de l'intérêt dans ce travail. Je n'ai pas de choix. Je dois m'acheter de quoi grignoter.
Ces gosses travaillent pendant plus de 10 heures le jour et le soir, emportés par la fatigue et le sommeil, ils doivent faire 2 heures de marche à pied pour rentrer chez eux. Pour Christian Wandou, Douma, coordonnateur d'une organisation de la société civile dénommée Bukavu Force Vive pour la Paix, il s'agit ni moins ni plus d'une nouvelle forme d'esclavagisme. Il est temps d'arrêter l'hémorragie et restaurer la dignité de ses enfants.
Je dois interpeller la conscience de tout et chacun, pourquoi pas autorité politique ou administrative, du fait qu'on ne peut pas payer 15 dollars à un adulte, mais on paye 3 dollars à un enfant. Quelqu'un qui a 8 ans et transporte déjà les histoires de 50 kilos, de 25 kilos, ça n'honore pas l'homme. Là, l'adulte qui l'exploite, c'est en vertu de quoi? Les acteurs de la société civile réclament que les droits de ces enfants soient respectés, afin que ces enfants puissent grandir. Et pourquoi pas, revoir un jour de diriger ce pays et non de rester comme des esclaves.
Mais est-ce que cette situation de pauvreté qui traverse ces enfants autorise le tenancier des chantiers de construction de les exploiter au point de les priver de leur enfance?
Pas du tout.
Maître Julienne Mouchagaloussa.
C'est interdit le travail des enfants. Il y a l'article 57 de la loi sur la protection de l'enfant qui nous dit que l'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation. Mais aussi, il faut montrer aux familles que l'enfant n'est pas là pour faire vivre la famille. L'État doit protéger les enfants. La gratuité de l'enseignement, ça peut aider à ce que les enfants ne réfléchissent pas à comment ils vont payer les récoltes.
Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Tatiana Mosso, je suis avec vous dans Washington Forum cette semaine. Quelle issue pour le Burundi alors que plane plus que jamais l'ombre d'une guerre civile? Depuis lundi, le Conseil de sécurité débat sur la situation dans le pays. La France a initié une résolution pour condamner les violences et leurs acteurs. Sur place, les violations des droits de l'homme ne cessent d'être dénoncées. Alors que penser de cette possible résolution de la communauté internationale? Les négociations au Burundi entre opposition et pouvoir sont-elles possibles? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h en temps universel.
À Brazzaville, les compagnies aériennes africaines en réunion dans la capitale de la République du Congo ont demandé hier que les États libéralisent l'espace aérien. Pour les transporteurs aériens africains, la mutualisation des moyens reste une action sûre pour être performant et soulager les passagers qui se plaignent quotidiennement, nous dit notre correspondant sur place, Ngwela Ngosu.
35 compagnies aériennes africaines réunies à Brazzaville ont appelé à mutualiser leurs moyens de transport. Djibril Tabouret, président de African Trans Service, fait le constat.
Il y a encore un gros problème. C'est l'ère du billet électronique. Il y a un certain nombre de choses qui ont changé complètement. Mais il y a l'interlining. En termes de confort pour le passager, ça évite qu'on fasse les formalités pour récupérer ses bagages et puis réenregistrer parce qu'on est sur deux compagnies aériennes qui ne sont pas en interlining. Ça pose un autre problème, c'est celui même au moment de la vente que les vendeurs ne peuvent pas vendre ensemble deux compagnies aériennes qui ne sont pas en interlining. Alors que les coopérations sont possibles.
Une observation partagée par un usager d'avions africains.
Mais en Afrique, Vous ne pouvez pas prendre un billet d'une compagnie A pour aller sur une compagnie B. Et les compagnies partent pratiquement aux mêmes heures, pour les mêmes destinations, pour les mêmes passagers. Il y a une compagnie qui sera pleine et l'autre vide. C'est ça le problème.
Mais aujourd'hui, 16 pays africains ont déjà signé la déclaration de l'Union africaine réclamant l'ouverture totale du ciel africain. À Brazzaville, la compagnie nationale Ekair réalise déjà quelques partenariats avec certaines compagnies africaines, comme le souligne ici son directeur commercial Yves Nanika.
Effectivement, la grande nouvelle, ce que nous avons annoncé donc, par notre DG AC, Fatima Beïna Moussa, c'est que nous allons avoir donc, ce partage de club que nous allons signer avec la compagnie Kenyan Airways. Mais nous sommes aussi en phase finale de signature avec la compagnie South African Airways. Possibilité de vendre des billets sur Ekair et vice-versa. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, l'étape suivante, qui est la plus importante, c'est que c'est un partage de code avec cette compagnie aérienne qui permet de pouvoir avoir sur une ligne comme demain Brazzaville, Nairobi, la compagnie donc, qui transporte est la compagnie Kenyan Airways, mais vous avez aussi donc, au départ de Brazzaville, par exemple, Brazzaville-Dakar, où nous sommes transporteurs, mais Kenyan Airways sera aussi en partage de code.
Le secteur de transport aérien reste prometteur sur le continent. La RDC vient de lancer sa compagnie Congo Airways, qui affiche déjà de grandes ambitions. Norbert Singmina, le directeur commercial et marketing.
Déjà exploiter l'ensemble du territoire national, c'est un défi majeur qui ne peut être totalement satisfait qu'avec une flotte d'environ 5 avions. C'est que nous allons atteindre d'ici un an, deux ans. Aussitôt que le marché domestique sera totalement desservi, nous avons les ambitions de desservir le marché régional et africain. Parce que l'année prochaine déjà, nous allons commencer les vols sur Luanda.
En 2016, toute la flotte aérienne civile du continent se retrouvera au Zimbabwe pour faire le point. Nguela Ngusu, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Ici aux États-Unis, et nous vous le disions hier, le président de l'Université du Missouri a démissionné. Les étudiants noirs exigeaient son départ. L'équipe de football de l'université, avec des joueurs essentiellement noirs, ainsi que d'autres étudiants noirs, lui reprochaient son indifférence face à de nombreux problèmes de race sur le campus. Pour savoir ce qui s'est passé, Idriss Fall a joint le professeur Jean-Germain Gros de l'Université de Saint-Louis du Missouri.
Nous vivons encore les séquelles de Ferguson. L'université de Missouri à Columbia est à 2 heures de temps de Ferguson. Donc après Ferguson, il y a eu une sorte d'effervescence à travers l'État de Missouri, y compris à l'université de Missouri à Columbia. Mais l'administration, la hiérarchie administrative s'est révélée incapable de répondre aux attentes et aux demandes des étudiants.
Que pouvait faire l'université après Ferguson?
Bon, l'université pourrait se montrer plus sensible. Je ne crois pas qu'il y ait une politique claire, des méthodes ou bien des mesures, disons, spécifiques que l'université pourrait prendre. Sur le plan diplomatique, eh bien, M. Tim Roof pourrait se montrer plus à l'écoute, plus sensible aux demandes des étudiants, en les invitant, par exemple, à les rencontrer à son bureau, en leur offrant sympathie. Donc, il s'est montré relativement insensible. Il a essayé d'ignorer les étudiants, ce qui a créé un sentiment de frustration.
Il y a même un étudiant qui était en grève de la faim et les joueurs de l'équipe de football ont commencé à bouder les terrains.
Oui, c'est ça. Donc, il y a eu en quelque sorte manque d'attention de la part de la hiérarchie administrative.
Mais est-ce que ça signifie que les étudiants noirs subissent le racisme jusqu'à présent dans certaines universités américaines?
Ah oui, bien sûr. Surtout à l'université de Missouri à Columbia, mais également là où j'enseigne, à l'université de Missouri à Saint-Louis. L'État de Missouri en général est un État très conservateur. La culture à Missouri, c'est une culture plutôt conservatrice. Il n'y a pas moyen de s'exprimer ouvertement sans attirer la foudre de certaines personnes.
Même si un noir, aujourd'hui, comme Barack Obama, dirige les États-Unis, les choses restent en l'état?
Ah oui, bien sûr. Vous savez que Obama a perdu l'État de Missouri à 2 reprises, en 2008 contre McCain et en 2012 contre l'ex-gouverneur du Massachusetts. Il y a eu un grand écart. Hein.
Mais ça ne veut pas dire qu'on peut toujours quand même voir les croix du Ku Klux Klan apparaître de temps en temps.
Non, c'est assez subtil. C'est pas ouvert. On ne va pas voir les croix du Ku Klux Klan et tout ça, mais quand même, on sent une certaine réticence de la part de la majorité blanche. Donc, c'est une sorte d'indifférence hein, qui alimente un sentiment de frustration chez les Noirs.
Le Noir est toujours l'homme invisible dans le Missouri.
C'est ça. Et la majorité prétend que nous n'avons rien à nous plaindre. Nous n'avons pas de raison de faire du bruit parce que tout est bien, tout va bien, mais la réalité est nettement différente.
Jean-Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université de Saint-Louis du Missouri. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.